Cardigan. Cardigan présente Les guerriers du silence de Pierre Bordage. Deuxième partie, Terra Mater. Prologue. L'incréé pensait avoir accompli le plus difficile. Ses féaux, disséminés dans l'univers, amputent l'humanité de sa mémoire, de son pouvoir. Le gardien immortel des annales indiques s'est envolé vers un autre monde après 15 000 ans d'une vigilance jamais prise en défaut. Tout est prêt pour son avènement. Mais voici que se présente un homme sur le sentier de la nef de lumière. Un homme qui a retrouvé la porte secrète et qui, s'il persiste dans son entreprise, pourrait fort bien ramener les siens à leur de Pierre Bordage, hors source, à leur souveraineté. Cela fait des milliers et des milliers d'années que l'incréé combat l'hégémonie humaine, qu'il détourne la parole des prophètes et des visionnaires, qu'il sème la mort et la désolation, qu'il sépare, qu'il divise, qu'il fragmente. Depuis le commencement, depuis que les premières étincelles ont jeté leur insupportable lueur, depuis que la chaleur convulsive a enfanté des ondes, puis les formes, depuis que les créateurs ont décidé d'expérimenter leur œuvre, l'incréé a sans cesse reculé. Vaincu par le cœur des ondes vibrantes, par la densité de la matière, par l'expansion infinie de l'univers. Et au moment où il a enfin inversé la tendance, où il est sur le point de toucher les dividendes de son patient travail de déstructuration, surgit cet importun sur les traces de sa divinité. L'homme entrevoit dans le lointain une construction resplendissante, un temple à 7 colonnes et aux murs ornés de vitraux à l'incomparable éclat. La nef des origines, l'arche qui contient les annales indiques. Là se trouvent les lois immuables de la création, la clé de la renaissance humaine. Il presse l'allure car les attaques de l'informe se font de plus en plus virulentes et le froid qui le transperce est d'une effroyable intensité. Si l'incréé n'a pas la capacité de lutter avec les humains sources, tel l'immortel gardien des annales, il s'y entend pour exploiter les failles des humains séparés. Il s'engouffre avec voracité dans l'esprit du visiteur, déterre les souvenirs enfouis, exacerbe les carences affectives, stimule les doutes, ravive les peurs. Subitement, la cohérence de l'homme se fractionne, s'effiloche, se désagrège, et toutes les composantes de son individualité, isolées, cernées par le vide, entrent en conflit. Des torrents de haine et d'épouvante le submergent, l'emportent, les contours de la nef s'évanouissent. Les bords d'une spirale infiniment noire et froide le happent et le précipitent dans un insondable gouffre de douleur et de désarroi. Il se réveille sur la banquise d'un monde nocturne et désert. Anéanti par son échec, protégé par ses seuls vêtements, une tunique légère et un pantalon bouffant que lui ont offert les pèlerins. Il marche pendant des jours et des jours sur l'étendue glacée, affamé, transi de froid, accompagné du seul bruit de ses sandales qui crissent sur la neige, suçant des morceaux de glace pour étancher sa soif. Aucune étoile ne luit sur la voûte céleste. Le sentiment d'avoir trahi les hommes l'accable. Les paroles de l'immortel gardien de la nef résonnent dans la désolation de son âme. « Tu seras seul. En cas d'échec, ce sera la fin de l'humanité, l'avènement d'une ère nouvelle, l'ère de l'informe. » l'air de l'hyponéros. Il se sent si las, si faible. Pourtant, il doit trouver en lui la force de redécouvrir l'entrée du sentier secret. Il ne pourra jamais se pardonner tant qu'il n'aura pas réussi à vaincre l'informe. Il entrevoit des volutes de fumée ocre dans le lointain. Afikit s'autorise à pleurer lorsque, l'un après l'autre, les pèlerins ont invoqué la puissance de l'antra et se sont évanouis dans les couloirs infinis de l'éther. Le village ressemble déjà à une ville morte, à une ruine. Les seules taches de vie sont les fleurs étincelantes du buisson du fou.
« Ne pleure pas, maman, » dit Yel. « J'ai toujours su qu'ils partiraient. Ils ont eu le mérite de commencer le travail. D'autres se chargeront peut-être de l'achever. »
Surpris, Afikit et Tixou se tournent vers Yel. C'est une petite fille secrète, âgée de 7 ans, qui s'agenouille souvent devant le buisson du fou et ne prononce que de rares paroles, le plus souvent incompréhensibles. Elle a les longs cheveux ondulés et dorés de sa mère et les yeux gris bleus de son père. Son regard semble au-delà de l'espace et du temps. D'elle émane une force étrange, presque effrayante. Bien qu'enfantine, sa voix est un sabre affûté, tranchant.
« Quels autres ?» demande Tixou.
« Ceux qui entendront l'appel. Le blouf gagne du terrain. »
Son père fronce les sourcils.
« Le blouf ? Le mâle qui mange. Hier soir, très très loin d'ici, 10 millions d'étoiles ont disparu. Quand il reviendra, Chari aura besoin de soldats pour arrêter le blouf. »
« Chari est peut-être mort, Yel, » soupira Afikit. « Cela fait plus de 7 ans que nous n'avons pas de nouvelles de lui. »«
Chari est vivant, »
affirme la petite fille d'un air buté.
« Il reviendra. »
« Comment peux-tu en être sûr ?»«
Les fleurs du buisson me l'ont dit. Il faudra aider les nouveaux pèlerins à venir sur Terra Mater. » Le blouf mange maintenant l'âme des hommes, et ils ont de plus en plus de mal à entendre le chant de la source.
Yel jette sa couverture. Pieds nus, vêtue de sa seule chemise de nuit, elle traverse en courant la place enneigée du village et s'agenouille devant le buisson. Là, de toutes ses forces, elle lance un appel silencieux à travers l'espace et le temps.